Je pense que la première chose à faire, c'est que tous les syndicats agricoles du monde, qui représentent les agriculteurs, les paysans authentiques, petits, moyens et grands, mais je ne parle pas évidemment des grandes entreprises à salariés de certaines régions du monde. Hein. Et je pense qu'il faut que tous ces syndicats comprennent bien qu'ils ont le même intérêt, parce qu'on est arrivé avec le libre-échange agricole international qui s'est petit à petit imposé, et surtout depuis Marrakech, depuis qu'on a imposé aux pays en développement aussi les politiques de libéralisation, ben on est en train d'être dans un système de prix internationaux qui finalement s'impose à tous les pays, et qui est lequel ? Qui est le prix en fait auquel les gens les plus compétitifs du monde, soit parce qu'ils ont des grandes surfaces, soit parce qu'ils sont bien équipés, soit parce que les salaires qu'ils payent sont dérisoires, enfin 36 raisons, les plus compétitifs du monde ont des excédents à écouler sur le marché international, et eux, ils peuvent vendre à ce prix-là. Mais ça représente 10% ou 15%, suivant les produits de l'agriculture mondiale. Ces prix sont supportables pour eux, quelquefois ils sont même... subventionnés par les pays de départ, si les pays sont riches, s'ils ne sont pas riches, s'ils ne sont pas subventionnés, bien sûr. Ils correspondent, ils sont suffisants et même avantageux pour peut-être 10 ou 20%, 10 ou 15% des agriculteurs du monde, mais ils sont franchement insupportables et désavantageux pour les 80 ou 90% autres. Ils sont insuffisants pour que ces gens-là puissent... Enfin, que les moins bien équipés, les moins bien dimensionnés, les moins productifs, pour qu'ils puissent acheter des moyens nouveaux et progresser, ils sont même insuffisants quelquefois pour renouveler le matériel et leur exploitation, qui va donc se dégrader. Ils sont insuffisants, quelquefois même, pour les paysans les plus pauvres du monde, ils sont insuffisants pour qu'ils puissent manger à leur faim. Il faut quand même bien se rendre compte de ça. Moi, je pense qu'au XXe siècle, on a inventé tout ce qu'il faut pour savoir organiser un marché mondial qui permet à tous les paysans du monde de vivre de leur travail et d'éviter l'exode et le chômage dans les bidonvilles, parce que de toute façon, personne ne va leur donner du travail. Hein, en tout cas, pas à tous. On ne résorbe même pas le chômage actuel. Qui va les protéger de ça, qui va les protéger aussi de la faim. C'est ce qui est extraordinaire, c'est que les trois quarts des gens... des 800 millions de gens qui ont faim dans le monde, les trois quarts des 2 milliards de gens qui sont carencés en protéines, en iodes, en fer, etc., dans le monde, c'est des paysans. C'est-à-dire que c'est des consommateurs producteurs. Donc c'est pas en baissant les prix des produits agricoles qu'on va faciliter l'accès. C'est exactement le contraire. Si les produits qu'ils vendent sont à bas prix, ils sont obligés d'en vendre plus. Et donc ce qu'il leur reste pour l'autoconsommation, ça fait moins. Rendez-vous compte que le blé, par exemple, ça valait 300 francs français de aujourd'hui, 2000, en 1955. Ça valait encore 200 francs en francs 2000, en francs constants, en 1975. Et aujourd'hui, ça vaut moins de 100 francs. En Europe, ça doit être dans les 70 ou 80 francs. Et le mil ou le sorgho au Sénégal, ça fait, on va le payer, 50 francs le quintal aux paysans. Autrement dit, il faut qu'ils vendent 4, 5, 6 quintaux pour avoir le même revenu monétaire qu'il avait en 1955. Mais il produit 10 quintaux, un paysan qui travaille à la main avec des rendements de 10 quintaux. La majorité des paysans du monde ont une productivité qui est de l'ordre de 10 quintaux. Un demi-milliard de paysans n'ont pas de machines, n'ont pas de semences sélectionnées, n'ont pas d'engrais, etc. Il faut quand même se rendre un petit peu compte de ce que ça veut dire. Ben, ce demi-milliard de gens-là, ils produisent à peu près 10 quintaux et ils sont aujourd'hui au prix du marché obligés d'en vendre la moitié pour simplement acheter leurs outils et quelques petites choses. Et donc, il ne leur en reste que la moitié pour vivre, et 5 quintaux, la moitié de 10 quintaux, pour faire manger une famille de 5 personnes, c'est la famine. Plus vous baissez les prix agricoles, plus vous fabriquez de gens qui ont faim. Et le quart des gens qui ont faim, qui ne sont pas des agriculteurs, mais c'est simplement des agriculteurs qui ont été condamnés à l'exode dans les 10 ou 20 dernières années, exode vers les camps de réfugiés ou vers les bidonvilles. C'est-à-dire que c'est les mêmes. Simplement, ils n'ont pas pu rester chez eux. Ils ont été obligés d'aller voir si l'aide alimentaire ou si le secours international n'était pas un peu plus efficace dans les camps de réfugiés et dans les villes que dans les campagnes. Mais donc, plus on baisse les prix agricoles, plus on baisse, plus on fabrique de la famine. Et deuxièmement, les salaires dans les villes, ils sont toujours, dans tous les pays du monde, à peu près égaux aux revenus du paysan marginal, puisque c'est le secteur agricole qui fournit depuis 2 siècles sa force de travail aux autres secteurs. Donc l'échelle des salaires à l'échelle mondiale, c'est l'échelle des revenus des paysans pauvres. $1 par jour en Chine, peut-être même pas $1 en Afrique, et ici entre 1 et 2 dollars. Et c'est clair, l'échelle des salaires, c'est l'échelle des revenus des agriculteurs pauvres. Je dis qu'au XXe siècle, on a appris ça, on sait qu'on peut, non pas pays par pays, parce que c'est à peu près intenable, et en tout cas, ce n'est pas ça qu'on peut faire au XXIe siècle, on peut faire un marché commun africain dans lequel on mettra le prix des céréales, du coton, de l'arachide, au niveau où il était en francs d'aujourd'hui, en 1975 déjà. Mais je pense même qu'il faudra l'augmenter davantage. Donc on sait faire des marchés communs, dans lesquels les prix sont fixés de manière à ce que tous les paysans puissent vivre de leur travail. Et évidemment, il faut le marché commun. Je ne dis pas qu'en Europe, il faudra mettre le prix du blé à 200 francs le quintal 2000 ou 2001. Je sais bien que... Mais on peut le remettre à 100 francs le quintal. Hein, de toute, vous voyez ce que je veux dire. Et en Amérique, peut-être il faut le mettre à je ne sais pas combien. En Amérique du Nord, je veux dire. Peut-être il faut le mettre à 80 ou 90 francs. Enfin, il faut demander aux Américains. Qu'est-ce qui... autrement dit, des marchés communs hiérarchisés. Ensuite, on sait faire aussi, on a appris à faire au XXe siècle, des accords par produit qui permettent, pour une marchandise d'exportation, de dire voilà, le marché mondial, c'est à peu près tant de millions de tonnes ou de quintaux, etc. Voilà, on affecte ça à chaque région, à chaque pays, on affecte les quantités et on fixe aussi le prix pour chaque pays ou chaque région qui est en proportion du prix des céréales et du reste. Et ensuite, on a une caisse de péréquation pour égaliser le prix payé par les acheteurs, par les industriels, etc. Donc, on sait faire ça. Le seul problème, c'est que on a appris à faire ça au XXIe siècle, et comme on avait le début de crise dans les années 72, qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit, on va premièrement instaurer la libre circulation des capitaux. Très bien. Ceux qui avaient des ennuis, ils ont délocalisé leurs usines dans les pays où il y avait des bas salaires. Moyennant quoi, on fabrique les mêmes marchandises en distribuant moins de demandes solvables. Donc on aggrave la crise. Après, on a dit, bon, ça commençait un peu à râler dans les pays industrialisés. Alors on a dit, bon, alors on va robotiser, automatiser, augmenter notre productivité. Bon, moyennant quoi, on vire la moitié des ouvriers. Enfin, vous savez bien, les Belges, vous en connaissez quelques cas célèbres. Hein, on vire la moitié des ouvriers, mais on fabrique autant de machines de bagnoles qu'avant, mais avec moitié moins de temps et de salaire. Moyennant quoi, on diminue encore la demande solvable, hein, et donc on aggrave la crise. Et puis, ça suffit pas. Alors on dit, on va libéraliser tout, c'est-à-dire y compris les échanges agricoles et alimentaires. Et moyennant quoi, on écrase les revenus des paysans aux quatre coins du monde, et donc on diminue la demande solvable. Moyennant quoi, on fait encore baisser les salaires, etc. Autrement dit, on écrase tout ce qui vient de la production, que ce soit la production industrielle, que ce soit la production agricole, etc. Et on fabrique un monde dans lequel la demande solvable est la moitié de ce qu'elle devrait être pour que ça marche à peu près, vous comprenez ? On a 3 milliards de gens à moins de $3. On a 1 milliard 500 000 personnes qui sont à moins de $1.5 par jour. Ben, ces gens-là, bon, alors on dit on a des excédents de blé, mais c'est complètement délirant. Et on n'a pas des excédents de blé. Il y a 800 millions de gens qui crèvent de faim. D'accord ? Pour les raisons qu'on a dites. Donc il n'y a pas du tout de surproduction, il y a simplement dans le monde d'aujourd'hui une sous-consommation monumentale et dramatique. Mais j'ai une stratégie et je l'applique syndicat par syndicat en France et même en Europe. Je suis allé à Luxembourg l'autre jour, j'avais le responsable de la centrale paysanne, j'avais même un ministre, etc. J'essaye de convaincre tous les syndicats, au moins ceux qui sont à ma portée, ici il y en a quelques autres, hein, qu'il faut absolument qu'ils s'unissent, parce qu'au fond, les agriculteurs, c'est 50% de la population, c'est la moitié de la population active. Et c'est un groupe social qui, par-dessus le marché, s'il ne joue pas le jeu de la dégradation de la qualité des aliments, s'il ne joue pas le jeu de la rupture de sécurité des aliments, s'il ne joue pas le jeu des OGM et de toutes ces âneries-là, monstruosités-là, ils ont quand même la sympathie de la population. Et donc, je leur conseille d'abord de s'allier, faire un front uni international, parce que ça, c'est une force politique. Et de s'allier aussi avec les consommateurs en disant, si vous voulez manger à votre faim et si vous voulez manger des aliments de qualité correcte et des aliments sûrs, il faut que les consommateurs et les paysans s'allient. Il faut un vrai pacte. Et moi, je me bats pour convaincre les syndicats agricoles français que c'est comme ça qu'il faut faire. Non pas avoir peur des consommateurs, parce que eux aussi, c'est des consommateurs. Leurs fils, leurs filles, c'est des consommateurs. Donc il faut arrêter ces espèces. Parce que tout ce système, c'est évidemment que ça essaye de diviser les gens. Cette pression sur les prix, on voit bien. Il y a même des gens ici en Amérique latine, bien intentionnés et tout. N'empêche, ils disent « Ah oui, mais pourquoi vous protégez ?» Mais en ce moment, si on ne subventionne pas l'agriculture française ou belge, il y a 50% des agriculteurs qui ont un revenu moins 30 000 francs, quoi. Ça tient pas la route. Alors, il faut d'abord les aider, eux, à faire la réforme agraire. Il faut pas oublier ça. Parce que le cheval de Troie, il est dans le pays. Hein. Mais ce qu'ils ont fait à leurs paysans, c'est-à-dire qu'ils les ont marginalisés sur le plan foncier, marginalisés sur le plan économique, social et politique, mais ils sont prêts à le faire au reste du monde. Hein. Moi, je vais pas défendre ces gens-là. Je préfère défendre les Ardennais. Et les paysans d'ici. Ils ont le même ennemi, en fait.